Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Jusqu'à 1h du matin, l'after continue pour l'instant. Daniel Riolo et Manu Petit sont là. Tout à l'heure, Nico Villas et Thibaut Jean-Grand prendront la suite avec la Libre Antenne. Jusqu'à 1h du matin, je rappelle l'adresse. Si vous voulez participer à la Libre Antenne, venir dans le studio de l'after à Paris. Vous envoyez un message à Max du Standard, l'adresse suivante, standard@rmc.fr. Et puis, si vous n'avez pas encore assez d'after après la Libre Antenne, il y a la revue de l'after demain matin. Allez acheter en kiosque ou en librairie. Elle est toujours là, disponible.
Elle est toujours d'actualité. Et les sujets sont toujours aussi bons et dans l'air du temps.
Exactement. Et en plus, sur afterfoot.media, vous pouvez vous abonner. Il y a une petite offre Coupe du Monde avant Noël, là, très sympa, qui vous permettra de faire quelques économies. Voilà, pour vous abonner pour une année. Les gars, au fait, on est dimanche soir. Actu qu'il est en avant avec la Coupe du Monde, mais on y a repensé, là, il y a quelques minutes, avec Jimmy Brown, notre producteur ce soir. On attendait des nouvelles de John Textor.
Ah oui.
On n'en a pas, concernant l'OL.
Pas faute d'avoir dit que ça puait du cul, cette histoire.
Oui, donc
c'est
là aussi un des feuilletons de la semaine.
Mais au final, attention, ce sera certainement une bonne nouvelle si ça ne se fait pas. Parce que ce qu'il s'apprêtait à faire, je pense, n'était pas bon pour l'OL. Il vaut peut-être mieux que ça ne se fasse pas si ça se fait pas.
Quoi, en termes de montage faudra, capitalistique, faudra
pas
tout
pleurer.
Ça
moi, je pense que ce ne sera pas nécessaire de pleurer si ça ne se fait pas.
Ouais.
Mais néanmoins, il faudra quand même restructurer.
Le progrès dit que le club communiquera demain. Voilà, ce soir, le progrès, le journal lyonnais.
Oui, bah là, a priori, ça. Enfin, quand même, ça va plus se faire, là, maintenant, quoi. Tu vois, ils vont pas attendre un moment.
Si jamais ça ne se fait pas.
Le blé, tu l'as ou tu l'as pas, quoi.
Rappelle que là, on est sur du cache-cœur qui s'en sort, parce que ça aura duré plus de 6 mois, cette histoire. Hein.
Ah,
ça vient de fin juin, quand même.
Oui, non.
Ça avait été annoncé en grande pompe. On était à Lyon, rappelle-toi.
Ça sent mauvais.
Dallas, c'est ton univers impitoyable, ça n'en finit jamais, quoi.
Ouais, non, mais. Écoute, le problème, ce sera plutôt l'étape d'après. Si ça ne se fait pas, à partir du moment où ils avaient envie de vendre, qu'ils étaient désengagés, probablement déjà la tête ailleurs, même si Aulas devait continuer à être opérationnel, bien sûr. Néanmoins, je pense qu'une restructuration du club, financièrement, sur les objectifs, va falloir y penser très sérieusement, parce que ces derniers temps, j'avais le sentiment qu'on avait un peu la tête ailleurs, quoi.
Alors, encore de l'actu Coupe du Monde, les gars, intéressante. J'aimerais vous parler de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, hein, et pas de Ronaldo le Brésilien, même si il est là au Qatar, on le voit à peu près tous les jours. 70% des fans de la sélection portugaise, selon un sondage de Abola, qui est un journal important de foot au Portugal, et ben 70% des fans de la sélection ne veulent pas voir Cristiano Ronaldo titulaire contre la Suisse en 8e de finale. Il y a une décote totale de Cristiano Ronaldo au Portugal. Alors, ça veut dire quoi? Ces gens-là n'ont pas de mémoire?
C'est dû à quoi? Non, mais c'est dû à quelque chose de très facile.
Ils le veulent sur le banc.
Moi, je pense que ce qu'il préférerait, je vais te dire, moi, c'est dans l'idéal, dans une vie idéale, c'est il ne joue plus. Le Portugal va en finale. Le Portugal mène 2-0 et à 10 minutes de la fin, tu le fais rentrer. Parce qu'on a, je pense que tous les Portugais l'adorent et veulent qu'il gagne la Coupe du Monde, sauf qu'ils ont peur de son apport sur le terrain, qui est désormais limité, qui empêche le jeu de l'équipe de se mettre en place et de se développer. Et ça, les Portugais, même si ce sont non seulement des grands fans de foot, mais également des connaisseurs, ils le voient bien. Que maintenant c'est un handicap pour le jeu de l'équipe et que d'attendre indéfiniment qu'il touche le ballon, qu'il soit décisif parce qu'il va pousser le ballon au fond, mais qu'à côté de ça, le jeu est bloqué par sa présence. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Et comme à ça, il a ajouté parfois une attitude qui a pas été géniale, dans le pays où il est une idole.
J'ai cru qu'il allait passer devant le banc de touche et insulter son entraîneur.
C'est ça. Je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde le voit.
Ça fait 6 mois qu'on a vu ça à Manchester United. On a vu comment ça s'est terminé.
Ah oui, cette attitude-là, les Portugais le voient.
Ten Hag a eu le courage de le mettre sur le banc de touche. L'équipe va beaucoup mieux à Manchester. Alors je me dis,
Là, il se barre. On parle d'Arabie Saoudite. Il négocie son transfert pendant qu'il est à la Coupe du Monde. Les 200 millions.
C'est pas la fin de carrière que j'aurais rêvé pour Cristiano Ronaldo.
Exactement. Ça, c'est la bonne phrase. C'est qu'au bout d'un moment, si c'est pour qu'il termine sa carrière en t'inspirant une forme d'arrière-goût un peu merdasse dans la bouche, c'est putain merde, oh Ronaldo, avec tout ce que t'as fait, on t'a tellement kiffé, t'es un joueur hors norme, t'as, et là t'en es à, tu sais, pendant que Messi il est en train de vivre la dernière love story avec l'Argentine, machin, lui il est là, ce qu'on dit là, c'est si tu joues pas c'est mieux, t'es un peu en train de nous faire chier, t'es un peu, franchement c'est terrible, hein, mais il s'est mis dedans tout seul, c'est lui qui s'est mis dedans.
Bah, c'est surtout... Il est en train de rater sa sortie en club comme en sélection, alors peut-être. Bah, surtout, attendons de voir jusqu'où va le Portugal, bah, hein, parce que
le Portugal est une très bonne équipe, ils peuvent très bien avancer dans cette Coupe du Monde, mais
j'espère qu'il trouvera des centres d'intérêt après sa carrière, qu'il soit à la hauteur de son ego, parce que ça risque d'être compliqué sinon. Et...
Il sera peut-être un bon coach.
Ouais, bien sûr. Il va te dire, ah, moi, quand j'étais toi, je contrôle comme ça, je le marque comme ça.
Non, ce genre de type-là, ça peut pas faire un bon coach, non. J'y crois pas une seconde.
Quand l'entraîneur a beaucoup plus d'ego que tes propres choix, ouais, ça commence à devenir problématique à gérer dans un vestiaire, tu sais.
Alors, à propos d'entraîneur, Manu, il faut qu'on parle un peu d'Arsène Wenger, que tu connais bien.
Ah.
Il a dit un truc.
Enfin, je connaissais l'ancien Arsène Wenger. Le nouveau, je le connais moins, hein.
Ça veut dire que tu connais pas un peu parti en vrille là.
Depuis qu'il a rejoint la FIFA, dès qu'il prend la parole, il dit des choses censées intelligentes des fois. Il fait des propositions, mais il dit pas que des.
Déjà, il est dans le coup du mondial à 48, qui bon, va être vraiment à mon avis un peu chiant.
Non, puis connaissant
quand même,
un petit peu la posture d'Arsène.
Et il avait proposé le mondial tous les deux ans.
Oui, et puis connaissant un peu la posture d'Arsène pendant toute sa carrière quand il était entraîneur, il a souvent eu. À maintes reprises, des déclarations assez dures envers la FIFA, envers l'UEFA également.
Alors, qu'il a retourné sa veste?
Je dis pas que tout le monde est pourri à la FIFA, à l'UEFA. Il y a des gens qui sont très très bien. Je veux dire, il faut pas jeter tout le monde avec l'eau du bain. C'est simplement, c'est que ce virage à 180 degrés, je l'attendais pas vraiment, quoi. Donc,
parfois un bol de soupe.
Et puis les propositions qu'il a faites, celles du mondial tous les deux ans, je me suis dit, et je me rappelle encore des déclarations qu'il faisait quand il était entraîneur, qui se plaignait du poids des sélections dans les effectifs.
À l'époque, il voulait réduire les matchs internationaux.
Oui,
à l'époque.
Combien de joueurs sont revenus blessés? À chaque fois, ils montaient au créneau. Ils disaient, on veut des indemnités. Enfin bref. Il allait souvent très très loin, il avait raison, il défendait son groupe, il défendait son club, il défendait son employeur, il défendait le football. Des fois, il me perd en route, je le suis pas, en fait.
Alors, il y a un truc quand même qu'il dit sur l'Allemagne et le Danemark.
Ah ben, ça va être court d'en parler en 4 minutes, hein, parce que c'est très intéressant ce qu'il a dit. Hein. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec lui, mais bon.
Il dit, il y a des équipes qui étaient prêtes mentalement, voilà, et il y en a d'autres qui ont décidé de se concentrer sur la compétition et pas sur les manifestations politiques. En gros, celles qui étaient prêtes, c'est ceux qui se sont concentrés sur la compète et pas sur les manifestations politiques. Donc, en gros, il sous-entend que l'Allemagne et le Danemark auraient mieux fait de s'occuper du sportif plutôt que des questions travailleurs au Qatar et tout.
Il fait le relais de la communication de la FIFA dans ce sens.
Non,
en fait.
Moi, je suis convaincu que l'Allemagne s'est plombée avec ses histoires et notamment le premier match. Ils se sont plombés à vouloir jouer les héros des temps modernes avec leur petite manifestation. Je pense que ça les a un peu plombés parce qu'en interne, en plus, ça devait être un peu chiant à gérer. Je suis pas sûr qu'il y avait unanimité. Gundogan, à un moment, a quand même dit, bon, maintenant, on arrête et on essaye de se concentrer sur le football. Il y a eu une grosse pression au pays. Grosse pression au pays, quand même. Bah, en Allemagne, il y a une grosse pression.
Oui, d'accord, mais je pense pas que ce soit ça à cause de ça.
À tel point que les audiences ont été divisées par deux en Allemagne, ce qui est dingue, hein, pour le foot.
Tu sais, sur le premier match, c'est ce qui leur coûte tout aux Allemands. Ils ne font que match nul sur ce match et c'est un autre destin. Ce premier match, ça les a foutus en l'air, hein.
Oui, mais enfin, c'est toujours facile de refaire l'histoire après les matchs.
Oui, mais ils avaient pas la tête à ça. La pression au pays, elle était folle.
Donc, ça veut dire que les Iraniens, pareil, dans le conflit qui les oppose aussi avec leur gouvernement. Bah, dans ces cas-là, on peut ouvrir la porte à beaucoup de choses.
C'est la même chose, mais effectivement, ça peut aussi perturber. Évidemment que ça peut perturber. Bien sûr. Bien sûr que ça peut.
Moi, d'ailleurs, regarde Pierrot, c'est comme
il était nerveux en conférence
de presse. L'Allemagne a perdu tout simplement parce qu'elle n'avait pas le niveau, tout simplement, notamment sur le plan défensif.
Non, mais quel n'est pas le niveau. En plus, j'en sais rien parce que ce premier match, il tourne à l'envers. À l'arrivée, ils battent le Costa Rica, ils font nul contre l'Espagne. Franchement, il y a des équipes qui se sont retrouvées en huitième de finale qui étaient bien moins fortes que l'Allemagne. Maintenant.
Ouais, mais est-ce que c'est parce qu'ils ont fait des prises de position?
Je pense que l'environnement était lourd. L'environnement était lourd autour de la sélection. L'environnement était lourd. Et comme par hasard, les deux pays où ça a le plus contesté, où ils se sont plus pris la tête avec ça, ont pas été bonnes et ont dégagé vite. Et le Danemark en particulier, qui a quand même fait quatrième de poule. Et dans les pays où il y avait de grosses contestations. Je pense que la pression était forte. Nous, on le voit pas parce qu'on a, on vit pas là-bas.
Ouais, bah, Arsène, connaissant bien le football allemand, il aurait très bien pu dire aussi que depuis 20 ans, la Nationalmannschaft n'est plus ce qu'elle était. Que...
Ah, bah, depuis 20 ans, ils sont champions du monde en 2014.
Ouais, pardon, 2014. Manu. Oui, non, je sais. Mais à force de vouloir trop copier l'Espagne, ils en deviennent la propre caricature. Et qu'aujourd'hui, moi, je vois plus le football panache allemand que j'avais l'habitude de voir, un football spectaculaire qui te rend dessus avec des gueulards sur le terrain. Donc, Arsène, il peut trouver une explication à l'élimination de l'Allemagne. Pour moi, l'Allemagne, elle renie son identité. Tout simplement, c'est pas parce qu'elle a fait des prises de position avant le mondial.
Mais ça, c'est probablement 80% de l'explication. 10% choix. Genre, c'est parfois le.
Non, mais en faisant ce genre de déclaration, mais oui, mais Daniel, détails.
Peut-être que si ça jouait à 2%, ça est 2%.
D'accord, mais en faisant ce genre de déclaration, Arsène, en faisant ce genre de déclaration, il est celui qui amène les messages, c'est le messager de la FIFA.
Ça, c'est d'accord.
Donc il va dans le sens de la FIFA. Mais venant de lui, avec sa connaissance du football, la connaissance de la Bundesliga et de la mentalité allemande, j'aurais préféré qui l'amène justement.
Oui.
La raison pour laquelle l'Allemagne n'a pas été qualifiée, c'est pour ça.
Oui,
c'est pas parce que mentalement, c'est pas préparé avant le mondial.
Oui, non, mais que ce soit
petites infos pour conclure, les gars.
T'as raison.
Vous dire que le sélectionneur du Brésil, Tite, a dit qu'il comptait sur Neymar demain contre la Corée du Sud. Alors, bon,
moi, je prendrais pas de risque.
Il va l'aligner d'entrée. En tout cas, voilà.
Moi, j'irai pas trop vite avec Neymar.
Pour lui. Et puis, une petite info, Coupe de France, vous dire que France Télé et Beansport sont les nouveaux diffuseurs de la Coupe de France, Coupe qui n'avait plus de diffuseurs, rappelez-vous.
Combien elle a vendu ça?
Beansport se positionne, on n'a pas les prix là. Mais.
Ça doit pas être énorme.
Voilà. Peut-être que le Qatar a sauvé la Coupe de France. Enfin, en tout cas, pour qu'on le voit à la télé, en tout cas, pour qu'on la voit à la télé, en tout cas, cette Coupe de France. Et on sait que Nasser Al-Khelaifi et Noël Le Graët sont ici à Doha. Peut-être que ça s'est joué là.
Ça a dû se jouer là, dans un palace.
Ces dernières heures, exactement. Peut-être qu'ils ont fait un paddle ensemble.
Noël Le Graët, un paddle, non. Ils ont dû faire un rendez-vous comme NAC à paddle à 9h. Ils ont dû faire ça vers 11h, parce qu'après-midi, l'OT dort.
Petit entrepôt à 10 000.
Non, je pense pas, non. Non, ça a dû se faire à 11h. Ça a dû se faire à 11h du mat, un truc comme ça.
Ok.
Un autre spécialiste de l'entrecôte à 10 000, c'est Thibaut Jean-Grande qui est là pour la Libre Antenne. Salut Thibaut.
Salut Gilbert, comment tu sais? En plus, j'ai arrêté ces derniers temps, là, ces derniers mois. On a diminué un peu, on a repris le sport. Bref.
Ouais.
On se retrouve dans un instant, les gars, pour la Libre Antenne.
10 000 lay roumains, hein. ça fait pas beaucoup.
Ouais, ah oui,
peut-être. Ah bah oui.
On est là en direct jusqu'à 1h. On vous attend au 32-16. Ben oui, comme tous les soirs de cette Coupe du Monde.
Ciao les amis, bonne soirée.
Continuez
bien, bye bye.
Ciao Manu. 32-16, c'est vous qui faites cette émission. Venez nous parler de ce que vous voulez. Adrie vous attend au standard. Ce France-Angleterre qui se profile par exemple, puisque ces Anglais vous impressionnent ou pas. Les dingueries pendant les matchs. Tiens, Koundé qui n'a pas enlevé sa chaîne. Est-ce que vous avez des souvenirs comme ça de dingueries pendant les. Oui, ses chaînes, Manu, c'est clair. Pendant les matchs là, qui vous remontent un peu dans le même genre. N'hésitez pas, 32-16. On se retrouve dans un instant avec un afterien fidèle qui sera en plateau, c'est Sabri.